Le Grand Dialogue.
Sikafoba.
Odewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo Gmoun.
Chienne Berry.
Sikafoba. Le Grand Dialogue.
Gouvernance, c'est le sujet sur lequel le Grand Dialogue va réfléchir ce soir. Et nous, vous le savez également, il y a beaucoup de réformes politiques et institutionnelles qui sont prévues au Mali. Comment les réussir? C'est le thème du Grand Dialogue. Et nos invités, ils sont Soumaïla Baïni Traoré, conseiller technique au ministère des réformes et des relations avec la société civile, Nouhoum Sarr du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD, membre de l'opposition, et Souleymane D, constitutionnaliste, professeur à la faculté de droit public. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, Monsieur Soumaïla Baïni Traoré, vous êtes conseiller technique au ministère des réformes et des relations avec la société civile. Il y a des réformes politiques et institutionnelles qui sont prévues au Mali. Quelles sont-elles?
Merci, monsieur. Je dois commencer d'abord par remercier le studio Tamani pour nous avoir associés à ce débat-là. Et aussi, commencer par rassurer le peuple malien que hier n'est pas comme aujourd'hui. Les paradigmes ont changé et les temps ont changé aujourd'hui. Le Mali est vraiment en plein dans le dialogue politique inclusif.
Qu'est-ce qui a changé concrètement?
Bon, ce qui a changé, c'est d'abord le contexte. Le contexte a changé aujourd'hui. Le pouvoir a pris sur lui en tenant compte de la situation politique sociale avec l'implication de tous les acteurs politiques de tous bords confondus. Le pouvoir a pris sur lui l'initiative, les hautes autorités, je veux dire le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a pris sur lui l'initiative vraiment de faire appel, de tendre sa main à toute la classe politique, la classe sociale.
D'accord, donc quand vous dites que le contexte a changé, est-ce que vous voulez dire que la sécurité est revenue, la paix est revenue, ou est-ce que vous voulez dire que l'opposition, la société civile font partie aujourd'hui du gouvernement?
Oui, ça c'est un élément important. L'opposition et d'autres acteurs, nouveaux acteurs de la société civile sont dans le gouvernement, mais surtout le contexte créé par le départ du gouvernement sortant et suite à une certaine crise sociale, politico-sociale, et l'accord de gouvernance, l'accord politique de gouvernance qui a été signé entre toutes les couches socio-professionnelles et puis les acteurs politiques, tous bords confondus, majorité, opposition. Et aujourd'hui, le gouvernement de mission qui a été mis en place, qui comprend l'opposition et d'autres acteurs vraiment nouveaux, je pense que tout ça, c'est des éléments de changement de contexte. Bon, la question sécuritaire, ça c'est un combat de longue haleine, ça c'est un combat...
D'accord, et on va y revenir. Maintenant, voilà. Quelles sont les réformes politiques et institutionnelles qui sont prévues?
Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que tout est parti de pas mal de reproches qu'on faisait à l'autorité, à l'État, et aussi de réformes institutionnelles, mais focalisées sur la réforme constitutionnelle. Mais aujourd'hui, ce serait un peu pas indiqué que le ministère se permette, dans ce contexte de débat inclusif en construction, de dire voilà les réformes que nous avons démarrées. Parce qu'on est en concertation avec la classe politique. Et un débat, un dialogue inclusif sera, un cadre de dialogue inclusif sera créé. Et une haute personnalité de la République va faire office de représentant du président de la République. Et tout sera mis en œuvre. Tous ces acteurs-là vont se rencontrer pour mettre en place le cadre qu'il faut, sortir des documents, des thèmes de référence du cadre du débat inclusif. C'est au sortir et convenu pendant ce débat, ce cadre de concertation inclusive-là, convenir des thématiques, du contenu, du format et du contenu. Et c'est à la sortie de telles assises que nous pourrons dire voilà de façon consensuelle la classe politique malienne, la société civile.
Donc pour le moment, à part la révision constitutionnelle, rien n'est précis par rapport aux autres réformes.
Même la révision constitutionnelle, parce que c'est un débat ancien, mais même la révision constitutionnelle aujourd'hui est versée, est un élément du dialogue inclusif, donc on ne saurait le dire aujourd'hui qu'il y a telle ou telle chose par rapport à la révision constitutionnelle. Parce que...
D'accord. Noum Sarr, avez-vous une idée des réformes politiques et institutionnelles prévues?
Merci beaucoup, Monsieur Touré. Il me plaît de dire au grand frère que l'opposition n'est pas au gouvernement. Certains partis politiques de l'opposition se sont convertis à la majorité. C'est ce qui a résulté de l'accord politique que nous avons qualifié d'une imposture sans pareil. Et il se trouve qu'aujourd'hui, certains qui étaient à l'opposition rejoignent la majorité. Donc l'opposition politique continue son chemin. La politique, c'est souvent des changements de camp dans des contextes qui évoluent à longueur de journée. Donc l'opposition n'est pas au gouvernement. Certains partis politiques qui étaient dans l'opposition rejoint la majorité.
L'opposition est-elle frustrée par ce changement de camp par certains?
Non. Pourquoi? Pourquoi être frustré? Nous sommes des entités différentes. Chaque entité a sa responsabilité, a son autonomie. Si leur parti a décidé de se convertir à la majorité présidentielle, c'est leur responsabilité. Nous n'avons pas de commentaire à faire sur ça et nous estimons que pour nous, cela a résulté d'un accord politique construit sur la base de combines politiciennes malsaines qui décrédibilisent la politique dans notre pays. Mais c'est leur responsabilité. Nous avons décidé de continuer dans l'opposition, de rester les gardiens du temple.
D'accord.
Et c'est ce que... Maintenant, parlons des réformes institutionnelles. Vous savez, c'est un jeu de mots. Il n'y a pas de réforme institutionnelle. Il y a un projet de révision de la Constitution. Parce que la Constitution décline l'ensemble des institutions. Donc, il n'y a qu'un seul projet, c'est réviser la Constitution. Et vous savez, la Constitution de la République du Mali est incontestablement l'une des plus avancées au monde. C'est une Constitution qui permet à un avocat d'assister son client dès l'enquête préliminaire. Ils ne sont pas nombreux les pays au monde qui ont décidé d'emprunter ce chemin. Maintenant, pour inclure certaines dispositions de l'accord antinational d'Alger, les pouvoirs publics ont estimé nécessaire de réviser la Constitution, chose qui n'émane pas d'une demande légitime. La Constitution malienne n'a demandé qu'une chose, c'est de la respecter et de l'appliquer. Le contexte, mon grand frère a parlé du contexte, bien sûr que nous sommes dans un contexte qui a changé, mais un contexte qui empêche toute révision de la Constitution. L'article 118 est clair. Lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, lorsqu'il est porté atteinte à la souveraineté nationale, on ne peut pas entreprendre ou poursuivre une révision de la Constitution.
D'accord, on va revenir à l'opportunité du moment.
Qu'on nous dise que, bon, il n'y a pas d'atteinte à la révision, à l'intégrité du territoire, on peut refuser. Ça, c'est souvent des positions qui reflètent le fait partisan, mais qui sont contraires à la réalité des choses.
D'accord, Souleymane D, aujourd'hui, il y a des réformes qui sont prévues. Que pensez-vous, vous, du processus en tant que constitutionnaliste?
Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une bonne rupture à vos auditrices et auditeurs et souhaiter une très bonne fin de ce mois de Ramadan. Et encore me joindre à mes deux co-débatteurs pour vous saluer de l'importance et surtout de la confiance que vous portez en notre personne. Nous avons l'habitude de venir ici dans ces débats et en tant qu'enseignant. Et je pense que dès l'entame des propos ici, vous savez que Monsieur Bayini n'a pas voulu se mouiller, mais il y a des réformes au Mali aujourd'hui. Beaucoup de réformes d'ailleurs sont en cours. Il y a, comme il l'a dit, la réforme constitutionnelle que personne ne peut nier. Il y a toute cette question relative à la réforme sur le découpage aujourd'hui du territoire malien, le découpage administratif. Il y a également la réforme électorale, la question électorale qui est aujourd'hui aussi sur la table. Et le dialogue social dont on parle, nous le situons à un autre niveau, c'est-à-dire par rapport à l'amélioration des conditions de vie de l'agent public au Mali. Vous savez très bien que ces derniers temps, on a vécu des grèves cycliques qui ont miné, on a failli frôler même une année blanche par rapport à ces questions de grève. Donc toutes ces questions et tous ces problèmes qui aujourd'hui le pays connaît nécessitent forcément l'engagement d'un dialogue inclusif, d'un dialogue social. Et maintenant, c'est pour dire, encore une fois de plus, qu'il y a des réformes majeures en cours. Et toutefois, en revenant sur la question principale, et sans pour autant engager le débat, vous savez très bien que on a tenté plusieurs choses. Il faut reconnaître simplement que les réformes politiques et institutionnelles sont un exercice aussi fondamental que périlleux. Mais il faudra aussi que chaque Malien comprenne que nos institutions ne peuvent pas rester statiques. De 92 à aujourd'hui, le contexte a changé. C'est le monde même qui a évolué, notamment par rapport à l'information et par rapport à l'action. Beaucoup de choses ont changé. Alors, doit-on nous dire qu'il ne faut pas toucher à une question ou ne pas régler un autre problème? Vous savez très bien que quand on est sorti des élections de 2017 tout près, vous avez entendu la rue. Et on a failli frôler une insurrection populaire. Donc, il y a des choses aujourd'hui au Mali. Dieu merci, M. Bayeni l'a dit, les curseurs a bougé. Chacun pense aujourd'hui que le moment est venu de se mettre autour d'une table et de discuter. Parce que la sérénité
d'accord,
a enfin...
Vous soulignez la nécessité de réviser.
Ah, bien entendu.
Mais est-ce que le moment est opportun?
Alors, beaucoup de fois, on nous pose cette question de l'opportunité. Les juristes, c'est vrai, ils tiennent à la notion, mais c'est une question de méthode. Et vous savez que la méthode, c'est en déclinaison 5 points. C'est quand entamer une réforme. C'est le temps de la réflexion par rapport à la réforme. Le temps de la discussion. Le temps de la décision. Et enfin, le temps de l'application. Donc, vous voyez que quand vous intégrez ces cinq étapes, l'opportunité tombe. Parce que ces cinq temps appellent, bien sûr, au dialogue inclusif. Si nous nous mettons d'accord, si nous sommes tous convaincus qu'il faut engager la discussion, l'opportunité ne se pose plus comme frein. Donc vous savez que quand on engage une réforme dans le premier temps, trop soudaine, la réforme risque de se heurter à l'incompréhension. Et trop lente, les sujets qu'on veut aborder ou les sujets qu'on entend résoudre risquent de se transformer en serpent de mer. Et c'est malheureusement ce qui arrive par rapport à cette réforme constitutionnelle. Vous avez Noussar qui vient de nous dire que quand il est porté atteinte à l'intégrité, c'est bis repetita qui va arriver. Alors aujourd'hui, je pense
vous
que...
Vous pensez que la Constitution peut être révisée maintenant
bien, oui.
Êtes-vous peut... d'accord, Noussar,
non,
avec...
Mais, écoutez, Noussar va nous faire sortir l'article 118. Et l'article 118 est très clair. Que lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, on ne peut engager une révision constitutionnelle. Ça, le débat pour nous est clos. La décision de la Cour constitutionnelle en 2017 a apporté une réponse à cette question lorsqu'elle nous a dit, la Cour constitutionnelle, qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité territoriale à travers l'interprétation qu'elle a donnée. Et de toute façon, ce n'est pas le lieu de répéter tout ce qui s'est passé. Vous savez que tout ce qu'on a entendu juridiquement ne tenait pas. La Cour s'est appuyée sur la seule définition qui existe aujourd'hui dans les textes, notamment la Charte des Nations Unies, qui définit l'atteinte à l'intégrité territoriale. Et c'est cette charte que la Cour est allée chercher. Maintenant, certains nous ont sorti le Code pénal malien. Le Code pénal malien, il faut le dire, n'a jamais défini l'atteinte à l'intégrité territoriale. Le Code pénal malien donne les éléments constitutifs de l'atteinte à l'intégrité territoriale. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez très bien ces éléments constitutifs, vous vous rendez compte que ces éléments même ne s'associent pas à notre réalité. Puisqu'on parle de sécession, il n'y a pas eu de sécession. On parle de guerre civile, il n'y a pas de guerre civile au Mali. Que les gens lisent bien le code pénal, ne définit pas, mais donne des éléments constitutifs. Mais
c'est un éternel Noussar débat. Va rebondir
c'est
sur
un éternel
ça.
Débat.
Je donnerai la parole.
On en parlera.
Je pense que mon professeur Souleymane Dé est le seul professeur d'université à croire encore, à continuer à croire encore à notre Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle totalement inféodée, qui, dans l'intervalle de 2 semaines, a rendu deux avis totalement antinomiques. Une Cour constitutionnelle dont les arrêts se négocient à l'avance. Et quand un professeur de droit, de surcroît, mon professeur, à moi, continue à croire à cette Cour constitutionnelle, c'est inquiétant. L'intégrité du territoire, On ne saurait en aucun moment dissocier la plénitude de la souveraineté à ce qui se passe à Kidal. Aujourd'hui, l'administration malienne n'est pas à Kidal. Aujourd'hui, le pouvoir central, le pouvoir malien n'exerce pas la plénitude de ses compétences à Kidal. Parce que Kidal est occupé par des forces qui sont opposées à la République, qui refusent la souveraineté de notre pays. Ça, on n'a pas besoin d'être professeur pour le savoir. C'est un fait, c'est visible, c'est physique. Donc, qu'on nous dise qu'il
donc
y a
pas... Donc, vous pensez que le moment n'est pas opportun?
Le moment n'est pas opportun, il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. C'est pourquoi nous disons, révision constitutionnelle, d'accord, mais libérer Kidal d'abord. C'est extrêmement important pour que l'ensemble des Maliens puissent se prononcer par rapport à ce que nous nous considérons comme l'âme de la République, qui est la Constitution. Vous savez, dans notre pays, depuis plusieurs années, on a pris l'habitude d'opérer régulièrement des saupoudrages juridiques qui nous ont amenés, malheureusement, dans la situation actuelle. Nous avons exigé un dialogue national, global, sur l'ensemble des questions qui, aujourd'hui, sont brûlantes dans la République. Ce dialogue national va se prononcer sur l'opportunité ou pas de la révision de la Constitution. Mais pour ce qui nous concerne en tant qu'acteur politique, il est évident et incontestable, malgré qu'il y ait une cour qui dit, qui invente des théories, insécurité résiduelle, définition selon la Charte des Nations Unies, sans tenir compte de la réalité des faits, malgré l'existence de cette cour, nous insistons, nous persistons, nous signons, il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Il n'est pas question pour nous de nous embarquer dans un projet de révision de la Constitution pour plaire aux beaux yeux de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
À vous, Soumaïla Bayinita.
Bon, franchement, je me retrouve pas dans l'argumentaire de mon frère Sarr. Parce que réellement, je commence par le bout par lequel il a terminé. Il dit, ce qui a été toujours voulu, qui a été l'attente forte de la société, des couches populaires, des acteurs politiques, c'est l'organisation d'un dialogue national qui va se pencher sur les questions globales préoccupantes de la nation. C'est juste. Nous l'avons toujours souhaité. Ça a tardé. Mais aujourd'hui, ce dont il est question, c'est bien ça. Alors, il faut que nous soyons conséquents. Il faudra que nous soyons responsables, que nous ne débutons pas. Il s'agit aujourd'hui, de façon courageuse, l'État malien a décidé de responsabiliser les populations, les masses populaires, les couches socio-professionnelles, les acteurs politiques. Ce qui a été toujours souhaité, enfin nous accédons à la demande. Allons-y à ce dialogue-là. Le président de la République a commencé la concertation individuelle par focus group avec les partis politiques. Après, finalement, il dit tout l'agenda qui était en cours, pour l'instant, on met un stand-by. Concertez-vous. Nous allons signer un accord de gouvernance, politique de gouvernance, pour renforcer la confiance, vous rassurer que ce n'est vraiment pas du pipeau. Nous allons mettre en place ensemble, après concertation, un gouvernement de mission qui comprendra toutes les couches, tous les bords politiques, contrairement à ce qu'il dit, l'opposition est bel et bien dans le gouvernement, ce n'est pas de la majorité, mais l'opposition est composite, l'opposition est diverse au Mali.
D'accord. Toujours donc, concernant l'opportunité, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, tous les Maliens pourront participer à ce processus quand, dans certaines localités, les écoles restent fermées aujourd'hui?
Donc, c'est pourquoi je dis d'abord qu'il faut que le Malien se ravise. Parce que généralement, pour des questions de confiance, on ne croit pas souvent à l'État. Mais cette fois-ci, il faut croire en l'État. Il appartient, pendant ces concertations-là, ces dialogues-là, présentement, au niveau de la primature, au niveau de la présidence, au niveau du ministère des réformes institutionnelles, des relations avec la société civile, il y a des échanges qui sont en cours avec cette classe-là. Et ils ont même reçu déjà des correspondances pour qu'ils proposent le format qu'eux, ils souhaitent pour le dialogue national. Et le contenu, les éléments du contenu. C'est pourquoi je disais, c'est vrai, le Mali est un pays de réformes. Il y a des réformes en cours, il y a toujours des réformes en perspective.
Donc vous admettez cette fois que donc, le découpage administratif, il y a des réformes.
Non, ce que je voulais
aussi
dire, les réformes sont toujours en perspective, mais à partir du moment, à un certain moment, on dit, on responsabilise tout le monde dans un cadre inclusif. L'État est obligé de faire un stand-by, de ne pas aller vite en besoin, d'attendre que ce corps-là se mette en place pour maintenant donner d'autres contenus, peut-être voir la priorisation des réformes et aussi l'orientation à donner. Il y a certaines réformes qui avaient été voulues. Peut-être les gens peuvent dire, les gens, le consensus peut tomber là-dessus qu'il faudra les mettre après ou bien les suspendre, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, présentement, on ne peut pas dire qu'il y a une réforme qui a démarré.
D'accord, je reviens sur le dialogue, le processus, les échanges qui sont en cours, notamment avec l'opposition. Et ce que l'opposition demande, c'est la présence de l'État partout au Mali avant de réviser la Constitution. Alors, est-ce que l'État peut promettre aujourd'hui qu'avant la révision, il sera présent partout au Mali, notamment à Kidal et dans certaines
localités
de Mopti?
Mais nonobstant la question d'insécurité, ça c'est un vieux dada qui revient toujours dans le débat par l'entremise, en tout cas par l'initiative de certains acteurs de la société, de acteurs politiques. On le comprend, chacun dans son rôle. Mais aujourd'hui, cette insécurité n'a pas empêché qu'il y ait des élections partout sur le territoire national. Aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a des autorités intérimaires partout au Mali. Le MOC est en marche. Aujourd'hui, il y a les gouverneurs sont désignés partout et ils font office.
Mais excusez-moi, cette insécurité empêche certaines autorités d'être présentes dans les localités où elles doivent être. Excusez-moi, cette insécurité empêche certains élèves d'aller à l'école. Cette insécurité empêche certains agriculteurs d'aller cultiver, d'aller travailler. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une raison valable?
Mais je dis non, sans ça, ça ne peut pas. Cette insécurité-là, c'est réel. Il faut avoir la conscience nette là-dessus, nous le déplorons tous. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter l'État. On arrête la gouvernance, on arrête l'État sous le prétexte qu'il y a l'insécurité. Et puis après, c'est d'autres reproches. Que l'État ne marche pas, l'État ne fait pas de son mieux. Aujourd'hui, l'État existe partout. Peut-être à certains endroits, pas de façon souhaitable, mais l'État malien existe sur toute l'étendue du territoire malien. À Kidal, vous voulez faire... Déjà, à Kidal, les gens ont accès à des services sociaux et économiques de base, même si ce n'est pas de façon souhaitable.
Excusez-moi d'insister sur les questions, parce que c'est vous qui représentez l'État aujourd'hui. Est-ce que, quand vous dites qu'on ne va pas arrêter l'État parce qu'il y a cette insécurité, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, ne pas réviser ou reporter ces processus, ces réformes-là, est synonyme d'arrêt de l'État?
Oui, mais la révision, l'un des objectifs fondamentaux de la révision, c'est renforcer la sécurité, c'est renforcer la paix. L'État a pris des engagements bien avant l'accord, parce que les gens font l'amalgame, bien avant l'accord pour la paix, la réconciliation issue du processus d'Alger. Mais l'État avait déjà des projets de réforme à plusieurs reprises. Depuis la Deuxième République, il y a eu des réformes. L'État malien, depuis l'arrivée de la Troisième République, il y a eu des tentatives de réforme. Donc, ce n'est pas l'accord qui a imposé la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est un vieux projet de l'État malien qui n'a rien à voir avec.
Mais l'accord le demande.
Mais l'accord a été un facteur qui a catalysé les choses, qui encore a nous impose d'aller à la révision. Donc, du coup, ceux qui pensent que c'est un dictat, ce n'est pas un dictat. C'est une volonté originelle, c'est une volonté depuis très longtemps de l'État malien de réformer, parce que la Constitution de 1992, de février 1992, vous en conviendrez avec moi qu'il y a des aspects quand même qui méritent d'être retouchés.
D'accord, on va entamer la deuxième partie et je reste toujours avec vous. Qu'est-ce que ces réformes vont pouvoir changer concrètement?
Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, ce qui était prévu, tout le monde le sait, il y a plusieurs débats ici dans le studio Tamani. Il y a l'avant-projet de révision constitutionnelle qui a été présenté suite aux travaux d'une équipe, d'un comité d'experts qui a été présenté au président. Le président a transmis, a remis copie de cet avant-projet à toute la classe politique.
Oui, mais à partir du moment... concrètement, quand on va faire ces réformes, qu'est-ce que ça va changer pour le Malien lambda?
Quand on change les réformes, la volonté, l'objectif visé, c'est d'abord la modernisation de l'administration, la cohérence entre certaines institutions. Nous ne voulons pas rentrer dans les éléments de contenu, parce qu'à partir du moment où le dialogue va en parler, il ne faudra pas s'hasarder à rentrer dans certains... Mais ce qui est clair, c'est que l'objectif visé à terme, c'est la cohérence, la fonctionnalité, l'opérationnalité des institutions, la prise en compte de certains aspects de l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, et puis faire de l'État malien un État moderne.
Donc, est-ce que vous pensez, Souleymane Dé, que ces réformes vont changer quelque chose concrètement pour le Malien lambda?
Une réforme, elle est engagée notamment pour faire évoluer les choses, pour améliorer.
Pour le faire, mais est-ce que ça va être le cas?
Oh, mais on le souhaite. Parce que lorsqu'on constate des insuffisances, lorsqu'on constate des blocages, la réforme est engagée pour parer à cela, pour apporter des réponses. Mais je l'ai dit encore une fois, le but, notre émission, c'est surtout ça. Comment réussir ces réformes? Il a dit tout de suite dans son propos que la révision constitutionnelle, par exemple au Mali, on n'était pas à notre première tentative. On a une tentative sous Alpha Omar Conaré qui n'a pas marché. La tentative sous Alpha Omar Conaré, il faut rappeler que c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui a mis fin au processus. Sous le président Amadou Toumani Touré, c'est la rupture de la légalité, parce qu'on ne peut plus parler de coup d'État, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est une rupture de la légalité, parce qu'il faut dire les choses comme ça. Une qualification juridique aujourd'hui, qui n'est pas le coup d'État. Donc la rupture de la légalité a entraîné, bien sûr, la fin du processus. En 2017, c'est la rue qui a fait reculer le président de la République. Nous sommes à notre quatrième tentative. Alors à un moment donné, il faut tirer les leçons. Et en tirant les leçons, on se rend compte qu'une réforme ne sera conduite à son terme qu'en présence d'un consensus fort à l'issue d'une réflexion approfondie. Ça voudrait dire que tous les avis doivent être écoutés. Toutes les parties doivent être écoutées. Parce que faute du consensus préalable, on a bien compris que le contexte actuel au Mali, faute du consensus préalable, il est parfois préférable d'abandonner la réforme. Vous voyez? Et donc du coup, j'aimerais bien dire à mon jeune frère ici présent, Sarr, que ce n'est pas parce que je suis le seul à croire. Non, je ne suis pas non plus l'avocat de la Cour constitutionnelle du Mali. Mais je vais effrayer mon frère pour dire que je pense personnellement qu'elle est l'une des meilleures cours aujourd'hui dans la sous-région. Ce n'est pas partisan ce que j'ai dit. Parce qu'il est extrêmement facile d'apporter certaines appréciations. Mais le juriste que nous sommes doit avoir un regard froid. Nous devons avoir un regard froid. Je prends juste un exemple. Vous avez dit...
Ça remet en cause sa légitimité. Et vous, vous pensez qu'elle est la
meilleure? Non, mais je vous dis clairement...
Mais elle est légitime.
Elle est légitime pour moi. Et ses décisions aussi, pour moi, vont dans le sens du droit. La preuve, quand on a vu à l'issue des élections, par exemple, et que l'opposition avait demandé, je crois, la démission, forfaiture, récusation... Mais, on a fait ce débat ici, où on a montré à nos amis que, du point de vue droit, aucun dispositif textuel au Mali ne prévoit la récusation du juge constitutionnel. Il n'y a pas de débat. Et du coup, s'il y a réforme à faire, il faudra peut-être tirer tous ces éléments. Comment faire désormais pour qu'un juge constitutionnel au Mali soit récusé? Il faudra les prévoir dans les débats à venir. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et c'est le but d'une réforme d'ailleurs. Vous voyez pourquoi il n'y a pas eu de satisfaction à ce niveau-là? Par rapport à la forfaiture, on l'a dit ici mille fois. Mais toujours en revenant sur ces éléments-là, il faut qu'on fasse attention. La Cour constitutionnelle, c'est d'ailleurs une différence. C'est la différence majeure qu'il y a entre une Cour et un Conseil constitutionnel. Une Cour a compétence à réguler le fonctionnement des institutions et de l'action publique, en tout cas de l'activité des personnes publiques. À ce niveau-là, l'article 85 de notre Constitution, les deux avis que la Cour a donné. Effectivement, deux avis contraires. Mais nous, ça, vous savez que j'étais personnellement moi-même dans cette logique. Au départ, quand le mandat des députés est arrivé à terme, nous avions pensé qu'il n'y a pas de suite juridique. On pouvait laisser le président de la République
En tout cas, l'exécutif gouvernait par ordonnance. Mais il a passé sur les bancs de la faculté de droit public. Vous savez très bien que la loi d'habilitation, l'ordonnance, c'est pour un délai. Alors, si on décide de gouverner par ordonnance, il n'y a pas de délai. Quand est-ce que cette ordonnance va prendre fin ? Cette habilitation de gouverner par ordonnance va prendre fin. Le délai n'existe pas. Et deuxièmement, l'Assemblée nationale a deux vocations. Non seulement voter la loi, mais contrôler l'action gouvernementale. Si nous dégageons l'Assemblée nationale, si nous disons qu'il ne faut pas proroger le mandat des députés, on fait quoi ? La question, elle est toute simple. On fait quoi ? Une chose est de contester, mais une chose est d'apporter la solution et la solution juridique. On fait quoi ? Alors c'est bien et c'est mieux de proroger le mandat des députés pour qu'on ne puisse pas avoir un État sans Assemblée nationale. D'accord. Parce que je l'ai dit tout de suite, mais il faut le dire, hein. Je pense que vous avez peut-être oublié le fil conducteur de mon analyse. Je vous ai dit dès l'entente de mes propos que pour réussir les réformes, il y a 5 étapes. La première étape, je l'ai dit, c'est quand réviser l'opportunité, il l'a dit, le moment politique de la révision. La deuxième étape, j'ai dit, le temps de la réflexion. Et c'est là où on met en place un comité d'experts. Et comme on parle dans le dialogue inclusif, on va nommer une personnalité de la République pour mener à bien ces débats. Troisièmement, j'ai parlé du temps de la discussion. Le temps de la discussion, c'est l'Assemblée nationale. Parce que tous ceux qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, c'est à l'Assemblée nationale qu'on peut faire le débat. S'il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de révision, il n'y a pas de réforme. Et troisième élément, j'ai dit le temps de la décision. C'est à l'issue de tous ces débats-là, que ce soit entre citoyens et les représentants de l'État, et que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que le président de la République va apprécier si oui ou non il doit continuer ou il doit renoncer. Mais une fois qu'il décide de continuer, et c'est en ce moment que le dernier élément intervient, le temps de l'application. C'est-à-dire simplement pour eux de veiller à ce que les lois organiques idoines soient votées pour mettre en œuvre enfin la réforme en place. Et pour finir, je finis par les accords. Premièrement, on fait trop de confusion, beaucoup parlent de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger est de 2006. L'accord qu'on a sous la main aujourd'hui, que certains pensent nous oblige à aller vers la réforme, il faut dire accord issu du processus d'Alger. Sinon, ce n'est pas l'accord d'Alger. Ou dire accord de Bamako parce que ça a été signé à Bamako. Le Conseil de sécurité des Nations Unies l'appelle d'ailleurs accord de Bamako. C'est le seul accord signé chez nous ici à Bamako. Et donc, à partir de là, j'aimerais bien le dire que les deux avis de la Cour constitutionnelle, c'est pourquoi je ne suis pas défenseur de la Cour constitutionnelle, la Cour a compris aussi, en disant non, entre le non et son oui, elle a dû peut-être réfléchir comme nous autres enseignants, on a réfléchi pour se rendre compte que si on oblige le gouvernement à aller vers des élections et qu'on ne tienne pas les élections, et on va tomber dans d'accord. le blocage de fonctionnement d'une institution.
Nous, Sarr, êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui, ces réformes vont pouvoir changer quelque chose pour le Malien ?
Non. En fait, je voudrais dire à mon professeur que la Cour constitutionnelle du Mali, contrairement à ce qu'il pense, est l'une des pires cours constitutionnelles que le Mali a jamais connues, l'actuelle Cour. C'est l'une des pires cours constitutionnelles de la sous-région. Comment pouvez-vous expliquer à vos étudiants qu'une Cour constitutionnelle qui, dans l'intervalle d'un mois, a rendu deux avis différents portant sur le même sujet et a affirmé que c'est une bonne cour. Donc, pour nous, c'est une cour constitutionnelle inféodée. La preuve n'est plus à démontrer.
D'accord. C'est concernant un fait. L'impact de ces...
Maintenant, pour dire à mon grand frère, permettez-moi de réagir. L'opposition n'est pas au gouvernement. Vous êtes administrateur. Et un administrateur, c'est vraiment connaître les textes. Le statut de l'opposition indique très clairement que tout parti politique qui siège au gouvernement n'est pas l'opposition. Ça, ce n'est pas Noum Sarr qui l'invente, c'est la loi qui le dit. Donc nos camarades qui ont été débauchés ne sont plus à l'opposition, ils sont à la majorité. Il faut que ce soit clair.
D'accord.
Ensuite, on parle des institutions. Le grand frère a indiqué ici que la réforme constitutionnelle, c'est une attente populaire. Mais non, ce que les Maliens attendent aujourd'hui, c'est d'avoir la paix, c'est d'avoir la sécurité, c'est de pouvoir circuler librement sur le territoire de nos ancêtres. C'est voir notre armée, notre administration s'installer à Kidal. C'est avoir à boire et à manger. C'est soigner les malades dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas falsifier, ce n'est pas modifier l'âme de la République et la Constitution pour organiser plus tard la partition du pays. Cela n'est pas acceptable. La question de la sécurité... C'est votre cour constitutionnelle qui a dit ici au peuple malien que nous sommes dans une situation d'insécurité résiduelle. Autrement dit, d'insécurité insignifiante.
insécurité résiduelle.
Aujourd'hui, donc, ces réformes-là, est-ce qu'elles vont changer quelque chose pour le Malien?
Mais il est évident que ces réformes ne vont rien changer dans la vie des Maliens, mais ces réformes vont changer la perception du Mali, c'est-à-dire remettre en cause son intégrité territoriale, remettre en cause la forme unitaire de notre État. C'est ce qui est recherché par l'accord concocté à Ouaga, négocié à l'Algérie et signé à Bamako.
En participant à ce dialogue dont parle M. Soumaïla Bayini Traoré, est-ce que vous ne pouvez pas changer cela?
Mais je vous indique très clairement, M. Touré, qu'il y a un adage chez nous qui dit que la nuit qui sera bonne, on le sait dès le crépuscule. Il est clair qu'à l'heure où nous sommes, la façon dont les choses sont concoctées, il n'y aura pas de dialogue national inclusif.
L'opposition ne va pas participer.
Mais si les choses continuent telles qu'elles sont aujourd'hui, si c'est une tentative de combiner de manigances politiciennes, si la préparation du dialogue national n'est pas inclusive,
faut-il s'attendre à une autre plateforme anti-Habana?
Mais ça, ce sont, vous savez, les peuples, dans leur vie, sont souvent dans des postures de résistance. Et le passage en force, la force s'appelle la résistance. S'ils tentent un passage en force, eh bien, il y aura la résistance.
Mais donc, une autre plateforme anti-Habana.
Mais pour vous dire, c'est déjà en gestation, je pense. Mais vous le saurez au moment opportun. Pour vous dire, le dialogue inclusif, il a indiqué qu'on nous a demandé d'envoyer des propositions. Soyons sérieux. Un dialogue politique, c'est d'abord une préparation inclusive pour que le dialogue soit inclusif. Vous n'allez pas vous enfermer dans vos bureaux et nous demander, envoyez-nous vos propositions. Nous avons demandé, dans la réponse à notre lettre, à votre lettre, qu'il faut une commission nationale d'organisation, une commission nationale paritaire entre l'opposition et la majorité. Bien compris avec la société civile. Parce que la société civile dans notre pays, chaque camp a sa société civile. Il ne faut pas se le cacher.
Êtes-vous en train de dire qu'il n'y a pas de société
donc
civile?
Donc pour nous, non, je dis une société, il y a une société civile, il y a des gens qui se revendiquent de la société civile, mais qui sont des courtisans du gouvernement. Il y en a qui
d'accord,
sont...
D'accord, je reviens à vous, Sarr, tout de suite. Non. Alors, Monsieur Traoré, est-ce que les raisons pour lesquelles l'actuel ministre Amadou Thiam, qui faisait partie de la plateforme Anti-Habana, avait demandé le report de la révision constitutionnelle, est-ce que ces raisons se sont améliorées?
Avant d'arriver aux raisons, franchement, à part que certainement mon frère est un universitaire ou un homme politique qui, vraiment, sur tous les coups, est tenu par son statut à s'opposer, à créer des bémols, des réserves, à part ça, franchement, je pense qu'il y a convergence, il n'y a pas de problème de vision. Parce que les conditionnalités qu'il a posées, mais c'est sur ces conditionnalités qu'on est en train de travailler. On dit inclusivité. Pour preuve, vous avez reçu une correspondance, vous demandez le format. Et ces propositions-là, c'est ce que le président de la République a voulu. Maintenant, quand ces propositions-là vont arriver à ces hommes des bureaux-là, ces propositions, c'est ce qui sera... On verra comment mettre en œuvre ces propositions-là. Si tous ceux qui ont été sollicités en termes d'avis disent qu'il faut une commission paritaire et autres, en ce moment, le comité préparatoire qui sera mis en place tiendra compte. L'État n'est pas encore présentement d'organiser le dialogue. L'État, après la consultation, l'écoute que le président de la République dont il a procédé auprès des uns et des autres, après la mise en place du gouvernement, maintenant, au niveau de la primature, on a souhaité que tous envoient leurs propositions de format et de contenu pour qu'on ne dise pas encore que l'État, voilà, ils ont créé un cadre, on n'est pas d'accord.
Au cas où ces propositions, la majeure partie, proposerait le report des réformes, est-ce que l'État va reporter?
Mais le contenu, l'inclusivité, demander l'avis des gens, c'est pourquoi? C'est pour en tenir compte. Quand on va à un référendum, c'est pour solliciter la voix du peuple. Aujourd'hui, ces différentes structures sont représentatives de la voix du peuple. L'autorité est obligée de tenir compte de leur avis. Le souhait, ce n'est pas qu'on relègue au calendrier grec la réforme institutionnelle. Ce n'est pas le souhait, parce que nous pensons que c'est pertinent, c'est opportun, et il le faut. Peut-être qu'on travaillera sur les questions
d'argent. Pertinent et opportun, mais quelle est la démarche prévue?
La démarche, c'est la démarche participative, la démarche inclusive. C'est holistique. Présentement, là où je vous parle, on est déjà... Ce matin, le département était déjà en échange avec le staff de chef de file de l'opposition pour un entretien au-delà des propositions qu'ils vont faire parvenir. Mais il faut des entretiens directs parce que l'inclusivité, ce n'est pas s'asseoir dans le bureau, recevoir des correspondances et puis monter des dossiers comme ça, monter des formats. L'inclusivité, c'est déjà démarcher les gens. C'est converser avec les gens, parce que quand on parle de dialogue...
Est-ce que vous échangez avec la société civile aussi?
Ah, mais bien sûr. Pratiquement toute la crème de la société civile a été déjà contactée, approchée, des échanges, de partage de vision par le ministre déjà. Il n'y a pas une organisation significative de la société civile aujourd'hui qui n'a pas été approchée.
D'accord, mais je vous donne la parole tout de suite.
Mais ça ne va pas être statique.
Noum Sarr, quelles sont vos propositions, l'opposition, pour que ces réformes puissent être une réussite pour le Malien?
Mais nous avons dit qu'il faut que les Maliens se parlent dans la sincérité.
Est-ce que ce n'est pas ce qui est prévu à travers le dialogue?
Non, il est en train de faire une démonstration qui ne correspond pas à la réalité des choses. Vous nous dites ici...
Qu'est-ce qui diffère un dialogue d'un dialogue?
Non, honnêtement, nous vous avons dit, le président de la République a adressé, ce monsieur Ibeka a adressé une correspondance.
D'accord,
nous indiqua qu'il va mettre en place un comité. Franchement, je crois que je suis...
Travaillé, laissez
je suis le démocratie, je suis libre.
Quelles sont les propositions?
Donc, c'est important. L'opposition a demandé la mise en place d'une commission nationale d'organisation qui va trancher sur les thèmes de référence. Parce qu'un dialogue politique, c'est d'abord des thèmes de référence. Cette commission nationale va identifier les participants pour que ce soit tous les Maliens, toutes les couches de la République qui se trouvent. Cette commission va déterminer les questions qui seront débattues et l'ensemble des questions qui touchent la République aujourd'hui. Donc, c'est notre bonne foi. Mais vous avez face à vous un gouvernement... qui malheureusement
est
enfermé dans une bulle.
Est-ce que réellement mon frère a lu entièrement et analysé le contenu de l'accord politique de gouvernance?
Mais je vous dis, je ne suis pas signataire de l'accord politique de gouvernement.
En tant qu'homme politique, il ne s'agit pas d'être signataire pour ne pas lire. En tant qu'homme politique, aujourd'hui, vous voulez le changement, vous voulez les réformes, vous voulez que les choses aillent dans un sens souhaité, souhaitable, durable. Pour que les engagements aient un sens, vous voulez que tout soit sincère, un document aussi majeur, politique aussi majeur de gouvernance comme l'accord, même si vous n'êtes pas signateur, je me pose la question, je l'invite.
Il veut répondre.
Donc vous nous dites là que ce ne sera pas inclusif. Si pour la préparation du dialogue, vous vous cramponnez sur l'accord politique de partage de gâteaux ou de gouvernement, si vous voulez, si vous vous cramponnez sur ça, vous excluez définitivement ceux qui n'ont pas signé. Pour nous, faites votre dialogue politique avec ceux que vous avez débauchés au gouvernement.
Non,
c'est l'accord politique.
C'est pour le dire que, quand il lira cet accord de gouvernance politique, vous l'avez lu.
Mais je l'ai lu.
Donc finalement, il a lu.
Il y a deux points.
Donc finalement, il a lu.
Réviser la constitution.
Je pensais qu'il disait qu'il ne l'a pas lu. Mais maintenant, il reconnaît qu'il a lu.
En ce moment, comment réussir? Excusez-moi. Oui, comment réussir toutes ces réformes, Souleymane Dé?
Vous savez, je l'ai dit, et tout le monde connaît ma position là-dessus. Les querelles politico-politiciennes, l'universitaire ne peut pas rentrer dedans. Mais quand même, vous l'avez dit vous-même, il faudra que nous sommes à une phase de notre reconstruction où il faut jouer essentiellement sur trois mots. La sincérité, l'ouverture et la transparence.
D'accord.
Moi, je voudrais bien poser une question pour finir.
On n'aura pas le temps de répondre à cela.
M. Sarr dit qu'il est du FSD. Il représente le FSD. Le FSD est signataire de l'accord, oui ou non?
Vous dites, répétez, revenez sur le
FSD. Le président du FSD a envoyé une correspondance en disant que le FSD ne signera pas.
Sincérité, ouverture et quoi?
L'URD.
Non, sincérité,
ouverture
et transparence.
Merci. merci Monsieur Traoré, merci Monsieur Sarr, merci Souleymane Dembélé. Je rappelle que nos invités pour ce grand dialogue étaient Souleymane Soumaïla Baïni Traoré, conseiller technique au excusez-moi pour que je puisse clore ce débat. Merci Soumaïla Baïni Traoré, conseiller technique au ministère des Réformes et des Relations avec la Société Civile, Nouhoum Sarr du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie, membre de l'opposition, et Monsieur Souleymane Dié, constitutionnaliste, professeur à la faculté de droit public. Merci à tous nos invités. Je rappelle qu'à la régie vidéo et la régie audio, Mamadou Ouattara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Hallo
Dmondi. Chenni Beri.
Sikikafoba.
Le Grand Dialogue.